Bonjour, nous sommes le lundi 17 mai, les 18h. Vous écoutez Radio Campus Paris, sur le web ou en FM, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, c'est La Relève, on est parti pour un quart d'heure où on va parler de mots et de cuisine, d'Italie et de cuisine. Mon invité, vous l'aurez compris, est cuisinier et écrivain, cuisinier ou écrivain, il va nous le dire tout de suite. Bonsoir Tommaso Melilli, vous êtes avec nous en direct d'Italie. Vous m'entendez, vous êtes l'auteur
Bonsoir, de... Christophe, oui tout à fait.
Vous êtes l'auteur de oui. L'écume des pâtes aux éditions Stock. Vous êtes arrivé à Paris pour faire des études de lettres il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et vous êtes devenu cuisinier. Vous écrivez régulièrement pour Slate, vous avez l'écume des pâtes et votre deuxième livre après Spaghetti Wars. Quel lien faites-vous entre la cuisine et les mots?
Voilà, c'est la cuisine et les mots, c'est deux langages, deux façons de raconter les choses, deux façons d'exprimer des sens de classe sociale, des façons de vivre, d'habiter. J'essaye à la fois de décrypter et de mettre ces sens décrypter dans les assiettes des autres ces sens, d'en mettre à mon tour. Quand j'y mets les mains, et de l'autre côté, j'essaye de raconter la cuisine et de faire fonctionner les mots comme les ingrédients, à peu près ça.
Il y a aussi, j'ai l'impression que vous dites au début du livre que quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes devenu cuisinier. D'ailleurs, vous dites que vous êtes cuisinier, vous êtes chef, vous êtes restaurateur. Comment vous définissez?
Moi, je j'aime pas spécialement le mot chef, même si c'est un rôle, c'est pas une identité. Quand on est le premier dans une cuisine, il faut que quelqu'un, quand on est capitaine d'un bateau, on est marin aussi, non? Donc, ça dépend. Quelquefois, il y a un rôle.
C'est
et
très français.
J'aime bien aussi le mot restaurateur. Dans le livre, on utilise aussi le mot tavernier, qui est un mot très vieux qu'on n'utilise plus, mais qui servait à traduire le mot hoste en italien. Et je trouve que c'est important aussi de mettre... On parle beaucoup de cuisine et on parle beaucoup de chefs, mais on ne parle pas assez des serveurs et des serveuses et des plongeurs, de ceux qui font le ménage, de toute la grande communauté qui tient debout nos restos, d'autant plus depuis cette année qui a été très dure. Je pense que c'est important de parler de toute la catégorie qui nous fait être bien à table.
Alors je vais vous appeler tavernier maintenant. Quand vous expliquez que vous êtes devenu tavernier Quand vous expliquez comment vous êtes devenu tavernier au début du livre, vous dites en gros que c'est le moyen que vous avez trouvé pour arriver à parler avec les autres. Et j'avais l'impression qu'avec ce livre, c'est aussi un moyen de continuer à parler avec les gens. Finalement, c'est ce que vous disiez, c'est un langage, mais c'est aussi un langage pour rentrer en communication avec les autres.
Ah, bien sûr, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que les gens qui racontent leur métier, surtout quand leur métier est intéressant. Après tout, enfin, tous les métiers sont intéressants si on est capable de les raconter. Et on a beaucoup perdu tout ça avec les réseaux sociaux et on a l'impression de tout savoir. Et on n'est souvent pas capable de raconter un truc. L'attention des gens est très courte et alors que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de se mettre autour d'une table, de se poser et d'écouter ou de raconter à son tour avec générosité pour l'autre. Moi, c'est ce que j'ai raconté là dans le livre, c'est le voyage de mon retour en Italie après 10 ans à Paris, mais en soi, ça n'a rien de différent par rapport à ce que j'ai fait pendant des années dans les bistrots parisiens où je travaillais, où à la fin du service, je me rapprochais des tables, je me posais à côté sur un tabouret et je répondais aux questions, je racontais des histoires. Voilà. J'ai juste fait une version plus propre de ce qui se passe et moins alcoolisée de ce que j'ai toujours fait au travail.
Vous aviez envie d'écrire? Parce que quand même, vous avez fait des études de lettres, alors c'est une question qu'on se pose en vous lisant.
Ça a toujours été un peu mon rêve, ça, depuis l'adolescence, depuis la première fois qu'on tombe amoureux, souvent chez certains déclenche l'envie d'écrire, on se met à écrire des poèmes et parfois ça continue. Ça a toujours été une envie, d'où le fait que je me suis mis à beaucoup lire et à étudier et je me suis mis dans la filière des études de lettres. Et j'ai longtemps eu envie d'écrire des romans que je ne commençais jamais. Et bah,
C'est les
ça a
meilleurs, ceux-là.
déclenché ce qui a déclenché l'écriture, ça a été le boulot, c'était le travail. Quand je suis rentré en cuisine, c'est-à-dire à 22, 23 ans, bah, du coup, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à dire et plein de choses à raconter qu'on racontait pas beaucoup. Du coup, je me suis dit, bon, là, c'est mon tour, j'ai un truc.
Qu'est-ce qui a motivé votre retour en Italie?
Bah, si vous voulez, je suis parti de l'Italie assez jeune, à 18, 18, 19 ans, pour aller à Paris. Et je viens de la campagne en Italie. Du coup, je m'étais beaucoup ennuyé quand j'étais petit parce qu'il n'y avait personne. J'étais le seul enfant de mon âge dans mon village. Et du coup, en gros, je suis allé à Paris pour faire des études, mais surtout parce que c'était loin. J'avais envie d'aller très loin de ce pays, de tout ce que j'avais vécu dans la première partie de ma vie. Et donc, en gros, j'ai un peu tout mis sous le tapis, le rapport avec ma culture, j'aime pas parler d'identité, mais avec mes origines, les gens qui parlent la même langue que moi. J'avais un peu tout mis sous le tapis et surtout, je me suis retrouvé en travaillant et en travaillant dans des restaurants italiens à jouer beaucoup le rital, à jouer beaucoup le cuisinier italien et à faire beaucoup de cuisine italienne. Du coup, au seuil de 30 ans, je me suis dit, bah, je fais l'italien tous les jours, mais j'ai jamais travaillé un jour en Italie. D'où l'idée
D'où
d'aller
l'idée
faire.
d'aller dans des restaurants italiens et quel restaurant, voir ce qui est. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie cuisine italienne, parce que vous développez une thèse très intéressante sur finalement la tradition, qui est quelque chose qui n'existe jamais que quand elle est réinventée. Donc, je ne sais pas si c'est la cuisine. Vous ne diriez pas que vous apprenez la cuisine italienne éternelle, là?
Non, non, il n'y a pas de cuisine italienne éternelle, comme il y a absolument rien d'éternel. Même les grands classiques de la littérature sont mis en discussion, et justement, depuis quelques années, parce qu'on se rend compte que dans d'autres continents, l'histoire était toute différente. Donc, il n'y a absolument rien d'éternel. Moi, j'avais envie de raconter une cuisine italienne qui était au-delà de tous les clichés. En l'occurrence, là, dans le bouquin, ce n'est pas une encyclopédie, il y a une dizaine d'endroits, et par exemple, il n'y a pas de mer. Il n'y a
Vous
pas
êtes
du
peu.
tout l'Italie méditerranée qui va peut-être faire l'objet d'une suite, la numéro 2.
Ouais. Vous avez pas eu envie.
Et
Oh,
c'est
pardon.
une cuisine
Allez-y, allez-y.
très pauvre, voilà, oui, dis-moi.
Non, non, allez-y, vous, pardon. Il y a un petit décalage, pardon.
Ok. Non, voilà,
Et donc, oui, non, parce qu'à un moment, vous dites
c'est
même
une
que.
cuisine.
Vous dites à un moment que la tradition n'existe
J'ai
pas,
pas
qu'il n'y a
entendu,
que
pardon.
la recherche. Je trouve ça très joli.
Bah oui, on en parle beaucoup. Le mot tradition, comme le mot terroir, c'est des mots auxquels on s'attache beaucoup, pas que en cuisine d'ailleurs, malheureusement. Et souvent, on s'y attache pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que quand on dit, ah, là, on va cuisiner ça, on cuisine tel plat, comme on l'a toujours fait, bah, le plus souvent, j'ai remarqué dans mon expérience que le plus souvent, c'est une excellente façon qui permet de cacher une paresse ou le manque d'envie de faire de la recherche, de creuser, de découvrir. Si on se dit qu'on fait jamais les choses tout le temps de la même façon, parce que le monde autour de nous change. Donc, si on veut continuer à faire un plat de la façon la meilleure possible qu'on imagine, bah, il faut travailler au jour le jour et de semaine en semaine et d'année en année. Parce que même si, disons, on travaille avec tel, dans la pratique, on travaille avec tel fournisseur ou tel potager qui fait des formidables légumes, bah, et à un moment donné, là, comme le plus souvent, les paysans sont très âgés, et bah, ce paysan-là, il va laisser tomber. Et du coup, il n'y aura plus de ces légumes-là. Et donc, on va être obligé à le trouver ailleurs. Si on le trouve ailleurs, moins cher et moins bon, bah, ce ne sera pas comme au bon vieux temps. Donc, pour continuer à faire bon, même sans idéalement rien changer dans l'assiette, en fait, il faut faire de la recherche tous les jours. tout le temps parce que le monde autour de nous change. Donc voilà, on peut être sur le parti pris de continuer à faire le même plat, mais c'est extrêmement compliqué. C'est pas non plus, c'est autant difficile et autant fatigant et passionnant aussi que de, bah, de se poser des questions tous les jours, de réinventer tous les jours.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Tommaso Melilli, l'auteur de L'écume des pâtes chez Stock, traduit de l'italien, j'ai oublié de le dire parce que sa traduction est très belle, par Vincent Reynaud. Tommaso, d'ailleurs, oui, vous parliez à l'instant, en vous écoutant, je pense à une chose que vous racontez, c'est qu'il y a un endroit en Italie où vous allez à un moment, je crois que c'est dans la montagne, où les paysans sont chinois et vous allez chercher des légumes chinois. Ça m'a frappé.
Oui, bah c'est à Turin, dans un
le
plus grand marché ouvert d'Italie, qui s'appelle dans le quartier de Palazzo. Et donc il y a un grand marché à l'extérieur qui ressemble au grand marché dans les métropoles qu'on connaît. Et puis il y a une partie plus cachée que à Turin. On dit on va voir là-bas. Là-bas il y a les paysans. Sous-entendu, il y a les vrais paysans qui cultivent eux-mêmes leurs légumes et qui viennent les vendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, en face des paysans qui ont la tête de nos grands-parents, et à côté d'eux, il y a des paysans chinois. Donc, paysans qui cultivent eux-mêmes leurs légumes, mais qui les cultivent dans les campagnes du Piémont. Parce qu'ils font partie de la très nombreuse communauté chinoise en Italie. Et je pense que l'Italie a la deuxième communauté chinoise plus nombreuse en Europe, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont, au lieu de commander dans leur restaurant et pour la consommation de leur communauté, au lieu d'utiliser des légumes, leurs légumes spécifiques qui viennent en conteneur de l'autre bout du monde, ils sont mis à cultiver leurs légumes, donc de la moutarde chinoise, d'autres, et plein d'autres trucs dans ces campagnes-là. Et du coup, des goûts absolument incroyables, parce que nous, on a l'habitude de manger dans les restaurants asiatiques des légumes qui viennent de... qui ont un traitement réfrigéré et chimique affreux. Alors que là, c'était incroyable. Du coup, voilà, la tradition et le terroir, c'est pas du tout c'est pas du tout, ou pas nécessairement l'asperge ou le foie gras de tel petit coin, telle petite région qui a toujours été connue pour ça. Le terroir et la tradition, c'est aussi ce qui se passe, ce qui se produit par les caprices de l'histoire et de la géographie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bon, finalement.
On approche de l'heure du dîner, là, comme ça, je me dis que je peux pas ne pas vous demander. Qu'est-ce que vous nous proposeriez de faire, là, ce soir, si on est un étudiant avec un budget limité, pas trop d'ingrédients, et qui va nous régaler. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, on va faire des pâtes d'étudiants. Donc,
Mais il faut qu'elles soient bonnes, là.
Une vieille recette du sud de l'Italie qui s'appelle pasta con la mollica, donc des pâtes à la mie de pain. On en fait à Naples aussi, et on l'appelle les pâtes avec des palourdes enfouies. Parce que l'idée, c'est que c'est des pâtes qui ont un goût de palourdes, mais les palourdes, elles sont parties, elles se sont enfouies parce qu'on est pauvre et du coup, on n'a pas les moyens de les acheter. Et c'est très simple. On fait cuire des spaghettis et al dente. Donc, généralement, si vous êtes en France, il faut regarder le paquet et enlever deux minutes.
D'accord.
Et du temps de cuisson, c'est une règle que j'ai établie il y a longtemps. Qui pour l'instant s'avère bonne. Et à côté, on prend de la mie de pain, donc de la chapelure râpée qu'on trouve partout, qu'on peut même du vieux pain rassis avec la râpe du parmesan. On râpe et on le fait sauter à sec, avec de l'huile d'olive et de l'ail, de l'origan ou toutes les épices qu'on veut, en fait, même pas italiennes du tout. On les fait sauter jusqu'à ce que ça devienne croustillant et bien doré. Et donc, on égoutte les pâtes et on met cette chapelure grillée par-dessus comme si c'était du parmesan. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, parce qu'on appelle la mie de pain En Italie, on l'appelle aussi le parmesan des pauvres. Et je vous assure, il y a un petit goût de très très bizarre petit goût de poisson qui se dégage, on ne sait pas par où. Et très gourmand, et surtout, ça ajoute une texture que les pâtes n'ont absolument jamais, c'est-à-dire le croustillant. Parce qu'il y a toutes les textures possibles dans les pâtes, mais il n'y a jamais le croustillant. Bah alors, là, il y a le croustillant.
Je peux vous dire que le réalisateur de l'émission a faim, je vois son œil qui frise. Je voudrais vous remercier parce que votre livre est très beau, c'est un livre de vie autant qu'un livre de cuisine. Et s'il s'appelle L'écume des pâtes comme les pâtes, c'est un livre dans lequel il n'y a aucune épate. Alors, je ne sais pas si épate au sens d'épater les gens. Mais c'est un livre très sincère, je trouve, très à hauteur d'homme. Donc merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Vous êtes toujours en Italie?
Merci beaucoup, quand vous voulez.
Bah, écoutez, bah, alors
Je
profitez bien
suis
de
toujours en
l'Italie.
Italie, mais j'arrive bientôt en France.
Ah.
J'arrive bientôt à Paris parce que ça me manque. Je suis un vieux esprit cosmopolite. Ça me manque. Du coup, on va dire que j'attends juste la réouverture des terrasses.
Ah, bah, écoutez, alors je crois que c'est pour très bientôt, dans quelques jours même. C'est pour le 19 mai, donc c'est dans 2 jours. Merci beaucoup, Tommaso Melilli. C'était La Relève, elle était proposée, présentée par Christophe. Elle était assurée par Colin, qui est parti faire cuire du pain, je ne sais pas pourquoi. À 19h, vous retrouverez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Merci de nous avoir suivis, au revoir.